Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, intitulée aujourd'hui « Entre Macron et Mélenchon, les classes moyennes salariées ». Alors pourquoi un tel titre et pourquoi s'intéresser aux classes moyennes salariées ? Eh bien tout simplement parce que ce sont elles qui font les élections, ce sont elles qui souvent donnent le la des mouvements sociaux récents en France. Donc on parle régulièrement d'interclassisme, on critique l'interclassisme, le populisme, on a consacré déjà une émission là-dessus avec Alain de Théorie communiste. Et enfin, elle occupe une place centrale dans le mode de production capitaliste qui, jusqu'ici, a fait l'objet de relativement peu d'analyses critiques, puisque on est plutôt, de manière générale, dans l'extrême-gauche, centré sur l'opposition entre le prolétariat et le capital, et ce, pour diverses raisons, qui tiennent notamment au fait que la plupart des producteurs de théorie appartiennent notamment à la classe moyenne salariée. Donc on voulait un petit peu, en revenant d'abord sur l'actualité et sur le phénomène Macron, et sur le phénomène Mélenchon aussi, mais plus centralement sur Macron, parce que c'est lui qui a gagné, penser à la place prédominante des classes moyennes salariées en politique, dans les mouvements sociaux et dans le mode de production capitaliste, alors qu'elles font généralement peu l'objet d'analyse de la critique sociale. Et donc, pour discuter de ce sujet, on a invité Alain, animateur du blog Carbure, qui a écrit plusieurs articles très intéressants sur ce sujet, et notamment Macron, classe moyenne et politique, qui est l'article qui a motivé cette émission radiophonique. Donc bonjour Alain.
Bonjour.
Alors est-ce que tu pourrais, pour mettre les pieds dans le plat, nous dire pourquoi est-ce que toi tu as écrit cet article Macron, classe moyenne et politique ? Donc il y a un sujet donc vraiment, vraiment d'actualité, et résumer un peu les grandes lignes de cet article pour commencer cette émission sur les classes moyennes salariées.
J'écris cet article parce que justement c'est une question d'actualité, c'est quand même pas mal ce qui m'intéresse dans mon blog. En général je réagis sur des moments de l'actualité immédiate, quoi, comme ça, et voilà, c'est un petit peu mon propos. Après, bah oui, évidemment, les élections telles qu'elles se sont déroulées là récemment étaient quand même un grand moment de politique en France, plus que la plupart des élections françaises, où la plupart du temps c'est quand même pas très palpitant. Là, cette fois-ci, on a eu quand même, avec les affaires Fillon, la brusque apparition de Macron venue de ne sait où, et la montée de l'ascension de Mélenchon, brutale également, et donc la chute du PS qui est arrivée en parallèle, il y a eu quand même pas mal d'événements simultanés dans cette élection-là qui ont fait que c'était quand même plutôt, plutôt intéressant. Toutes ces apparitions font que on pourrait penser qu'on avait affaire à différents points de vue à un genre... un moment un peu exceptionnel. Et si j'écris cet article, c'est aussi pour essayer de remettre un petit peu de rationalité et une analyse un petit peu à tête froide de ce moment. Notamment dans le camp Mélenchon, c'est vrai qu'on a quand même pas mal déliré quoi sur la montée du candidat Mélenchon. Du côté du candidat Macron, c'était encore plus frappant l'écart entre l'idéologie et la réalité, parce que c'est présenté comme le candidat du renouveau, alors que de fait, on voit qu'il recycle tous les anciens, bon, avec quelques nouvelles têtes, certes, mais bon, son premier ministre est un très proche de Juppé, etc. Et puis bon, ça a été beaucoup discuté, enfin bon, on voit que de fait, ça recycle l'ancienne politique, et c'est ce que je dis dans mon article, pour en arriver à de facto à un régime de parti unique qui était déjà celui qui était effectif, mais de manière plus ou moins masqué ou mise en scène de manière différente.
Et celui là, de l'alternance, voilà, l'opposition spectaculaire voilà. De l'alternance.
Le parti de l'alternance est devenu le parti au pouvoir. Donc voilà, tout ça était quand même assez intéressant, ça méritait d'en parler. Après, j'ai plus effleuré cette question-là dans mon article, et j'ai plus, en réalité, parlé au fil de l'écriture, c'est arrivé un peu comme ça, hein, de cette question qui me paraît plus centrale, qui est celle de la place de la classe moyenne dans la politique. Puisqu'en réalité, l'objet politique et l'objet électoral est quand même l'objet, pour moi, de cette classe. Simplement, d'un point de vue pratique et immédiat, on sait que le taux d'abstention des ouvriers est énorme, ce qu'on appelle la classe ouvrière. Les ouvriers, simplement, ne votent pas. Quand ils votent quand même beaucoup Le Pen, ce qui n'est pas très encourageant, mais qui est comme ça, mais de manière extrêmement marginale. Et donc l'objet de la politique d'un point de vue pratique est celui de la classe moyenne, puisque c'est massivement la classe moyenne salariée qui participe au jeu électoral. Et d'un point de vue plus théorique, la classe moyenne se situe à l'intérieur de la production idéologique politique du capitalisme d'une manière toute particulière. Elle est productrice en tant que classe de cette
idéologie, notamment du... Voilà, dont on a déjà parlé, l'idéologie du populisme, du 99% contre 1%, le fait que, tu en parles très bien dans ton article, le fait que les classes moyennes ont finalement prétention à incarner l'universel, et qu'elles pensent, et qu'elles sont légitimes à représenter cet universel, puisqu'elles sont, à la fois, elles se pensent comme uniquement des salariés comme les autres, et donc finalement, à la limite, la classe moyenne nie qu'elle est classe moyenne, et qu'elle n'est pas, enfin, qu'il y ait vraiment une séparation avec le prolétariat, et ça on essayera de montrer quand même cette séparation réelle qui existe. Et d'un autre côté, elle se pense pas forcément comme antagoniste au mode de production capitaliste, mais simplement elle brandit quelques éventails, la finance, les 1% et tout ça. Mais ce qui est intéressant quand même dans ton article, je trouve, c'est que pourquoi on a choisi aussi ce titre entre Macron et Mélenchon, hein, qui est pas le tien. Mais parce que en lisant ton article, on a l'impression que finalement les classes moyennes aussi un peu entre les deux. C'est-à-dire à la fois classe moyenne salariée représentante de l'universel, donc qui vont un peu dans le sens de l'histoire, qui est Macron, on est dans la crise du capitalisme, dans la mondialisation, il faut s'adapter, il faut restructurer, il faut en finir avec le code du travail, tout ça. Et d'un autre côté, du côté de Mélenchon, la classe moyenne qui râle de son décrochage en termes de revenus par rapport aux revenus, par rapport au cadre supérieur, et par rapport à, disons, à la fraction supérieure des classes moyennes, on voit un petit peu cette espèce de louvoiement de la classe moyenne entre les deux, même si là on parle de manière générale des classes moyennes salariées, mais au fur et à mesure de l'émission, on verra que derrière cette unité, il y a aussi bien sûr des fractions qui ne se recoupent pas exactement, qui ont des intérêts un peu différents, mais c'est important quand même de poser qu'il y a quand même une unité, et notamment cette unité qui est, tu le montres bien dans ton article, prétendre représenter l'universel et finalement de faire les élections, puisque le chiffre qu'indique Bruno Astarian dans un article justement sur les classes moyennes salariées, sur les classes moyennes salariées dans la population active en France, en 2014, il y avait 11 millions de personnes. Donc, quand on connaît les chiffres électoraux, 11 millions de personnes, on sait que ça représente en fait l'essentiel du...
Enfin, du corps électoral.
C'est ça.
Oui, les classes moyennes sont la classe moyenne et la classe de la politique. Et effectivement, il y a cette... au sein de cette élection, les élections ne sont pas un cirque complètement vide de sens. Ça exprime des oppositions réelles, des antagonismes réels au sein massivement de cette même classe, c'est-à-dire entre la partie de cette classe qui est ascendante, plus ou moins intégrée, ou qui en tout cas peut espérer plus ou moins légitimement du capitalisme de s'intégrer dans le cours plus optimiste du capitalisme, et celle qui est durement atteinte par la crise depuis 2008 et tout ça. Il y a aussi la question des classes moyennes salariées, et chez Mélenchon, il y a quand même énormément le corps des fonctionnaires aussi, qui a un statut un petit peu particulier, qui a un statut qui est vraiment, véritablement pour le coup, celui de la reproduction d'ensemble du social, par toutes ces fonctions qui appartiennent à l'État, la police, la justice, l'éducation, etc. Mais qui ne sont pas des catégories qui sont des salariés au sens où elles produiraient de la valeur, au sens d'un rapport capitaliste. Donc cette partie-là de la classe moyenne va être très représentée dans le côté Mélenchon, puisque c'est celle qui va défendre l'État comme étant un État-providence, un État redistributeur, un État qui est contre le capital et qui représente lui-même la société.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis dans ton article. Tu montres bien la centralité dans l'imaginaire des classes moyennes salariées, des 30 Glorieuses justement, et comment est-ce que les 30 Glorieuses apparaissent comme le modèle à suivre pour les classes moyennes salariées, en raison de leur propre abondance matérielle à cette époque, de la réduction quand même des écarts dans la société entre... pour ça qu'elles mettent vachement en avant le compromis fordiste. Parce que le compromis fordiste, c'est elles, finalement, la classe du compromis fordiste. Certes, les écarts entre le prolétariat et le capital réduisent un peu, mais c'est surtout elles, en l'occurrence, qui en bénéficient. Et enfin, pour ce qui est des 30 Glorieuses, il y a aussi, ça revient un peu à l'idée de compromis, mais il y a aussi la classe moyenne salariée comme médiateur, conciliateur social, qui résout les antagonismes. Et finalement, on pourrait presque dire que lorsque la classe moyenne salariée s'indigne avec ou s'insoumise avec Mélenchon, elle veut finalement, en tapant sur quelques franges du capital qui leur paraît un peu exagérées, aller trop loin, finalement rétablir la paix sociale. C'est leur revendication s'arrête là, et finalement on pourrait imaginer que si elles étaient satisfaites, elles rentreraient dans le rang et feraient comme en 68, en juin 68, voteraient massivement De Gaulle.
Oui, comme tu disais tout à l'heure, tu disais que la classe moyenne avait une place centrale dans la politique. Elles ont aussi une place de, quelque part, un rôle de pivot, où le rôle de l'aiguille de la balance entre les deux plateaux du travail et du capital. Sont elles, une fois que l'aiguille de la balance est au milieu, ça veut dire que l'équilibre entre le capital et le travail serait respecté. Et effectivement, cette idéologie des 30 Glorieuses, qui est même partagée dans le monde ouvrier, puisque les gens ont gardé d'excellents souvenirs, d'une certaine manière, de cette période-là, d'un point de vue pratique, pour énormément de gens, la période de l'après-guerre, de l'immédiate après-guerre, ça allait tellement mal avant que c'était quand même une amélioration drastique. Il fallait reconstruire le pays. Donc l'État, effectivement, a fait ce qu'il fallait. Il y a eu le plan Marshall en France. C'était une période historique. Il est certain qu'elle est derrière nous et qu'elle va pas revenir. Mais c'était le moment de constitution de la classe moyenne telle qu'elle est aujourd'hui en France, ce moment-là, et on y fait sans arrêt référence, comme toutes ces petites considérations désuètes sur le programme du Conseil national de la résistance qui sont très sympathiques, mais dont on voit bien l'absence totale de pertinence dans le moment du capital dans lequel on se trouve actuellement.
D'ailleurs, c'est intéressant de parler des 30 Glorieuses, parce qu'on voit bien que aussi dans le rapport aux 30 Glorieuses, il n'y a pas forcément les mêmes 30 Glorieuses qui sont mobilisées. D'un côté, la fraction des classes moyennes salariées plutôt en voie de précarisation, qui voient, disons, que leur rôle social diminue, les fonctionnaires, etc. Plutôt mobiliser les 30 Glorieuses de 45, le Parti communiste, etc., etc. Alors que Macron va plutôt jouer sur le côté, enfin, va plus aller sur les années 60, la haute croissance, l'adaptation à la modernité, la fin des corporatismes. Et c'est intéressant. On retrouve un peu dans ce conflit, enfin, dans les deux visions un peu des 30 Glorieuses qui sont portées par ces deux fractions de la classe moyenne et leurs candidats, bah, l'antinomie aussi par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire une partie de la classe moyenne qui cherche à garder les acquis des périodes précédentes, qui tire vers l'ancien, qui veut finalement rester à l'ancienne forme du capitalisme, à une forme moins restructurée, disons, alors que les autres regardent un peu de l'avant et disent non, mais Macron, c'est le sens de l'histoire. Et je trouve qu'il y a une phrase assez très intéressante dans ton article, c'est donc la droite catholique incarnée par Fillon, comme la gauche social-démocrate ou social-populiste qu'incarnait Hamon et Mélenchon, ainsi que la droite populiste de Le Pen, prétendent se fonder sur des principes et des valeurs à proprement parler politiques qui sont censées déterminer le gouvernement et la conduite des affaires. Macron, lui, n'a aucune autre valeur que celle de l'existant, aucune transcendance, que ce soit Dieu, le peuple, la nation ou l'émancipation des hommes, ne dicte sa conduite, il est purement immanent. Les choses sont ce qu'elles sont et il n'y a pas de miracle. Et donc on voit bien c'est Macron, enfin le côté sens de l'histoire, l'adaptation à la modernité, et qui était aussi porté par le général de Gaulle aussi dans les 30 Glorieuses, quoi.
Oui, c'est une espèce de mix entre de Gaulle et Giscard d'Estaing, quoi, finalement. On a trouvé le clone. Giscard d'Estaing, à l'époque, il faut quand même se rappeler qu'il représentait la jeunesse, l'avenir. On le filmait d'ailleurs en train de faire du ski, hein, dans les toutes nouvelles stations de ski françaises. Il était sportif, c'était notre petit poutine à nous, était joli, quoi. Il faisait du ski et puis il jouait de l'accordéon, des fois, chez les prolos. Voilà, il y avait déjà ce sens de la communication et tout ça, quoi. Mais bon, oui, le principe de réalité de Macron, je veux dire, on le connaît, hein, ça va être celui de l'austérité à la française, telle qu'elle doit nécessairement s'appliquer, et telle qu'elle est contestée par, effectivement, les partis nationaux, populistes, la frange critique qui dit, bah non, le rôle de l'État, c'est pas d'obéir aux directives européennes, ce qui est la formulation dans laquelle on va dire les choses, c'est-à-dire de faire la politique du capital, quoi. Mais de taper du poing sur la table quand il le faut, et de faire une véritable politique nationale, c'est-à-dire populaire, c'est-à-dire soit pour le peuple français, soit pour les Français, que ce soit d'un point de vue ethnique ou simplement national. Mais là-dedans, bah, effectivement, Macron représente le principe de réalité, comme on l'a magnifiquement vu d'ailleurs pendant son débat avec Le Pen, où Le Pen s'est fait simplement laminer par ce principe de réalité-là, quoi.
Oui, sur l'économie, elle a perdu la campagne, ouais, là-dessus, quoi, ouais, parce qu'elle ne maîtrisait pas du tout ses dossiers.
Ouais. Et c'est-à-dire que là, précisément, où elle pensait gagner, c'est en tenant un discours politique face à un discours de technocrate. Ben, c'est le technocrate qui a eu raison, parce que qui vote dans ce pays, c'est des gens qui pensent à l'économie et qui ont la conscience de ces choses-là, quoi. Donc la classe moyenne préfère, grosso modo, voter pour un bon gestionnaire un petit peu terne mais sympathique, plutôt que de partir, pour l'instant en tout cas, dans des grandes aventures nationales, populistes, populaires ou ethno-centrées, ou ce genre de grands récits, quoi. On n'est pas du tout là, on n'est pas là encore.
Pour les différences un peu entre ces deux fractions, qu'on brosse un peu de manière un peu peut-être caricaturale, mais classe moyenne salariée dynamique, classe moyenne en voie de précarisation. Si on reste un peu, c'est un peu des idéotypes, quoi, hein. C'est pas vraiment des réalités claires et stables. Mais y a un peu deux styles, c'est-à-dire que Macron, comme tu dis, il incarne parfaitement le récit de vie du jeune diplômé de la classe moyenne supérieure qui, par son travail acharné et malgré la concurrence, réussit à s'élever au-dessus de sa situation de départ. Et donc là, on a vraiment le discours qui plaît un petit peu à la classe moyenne salariée ascendante, ou disons qui se croit ascendante, parce qu'évidemment l'idéologie est une force matérielle pour le coup. Voilà, c'est donc les gens des classes moyennes supérieures, des classes moyennes salariées, pardon, qui ont envoyé leurs enfants à Sciences Po, donc voilà cette fraction là dynamiques, qui croient que leurs enfants deviendront cadres chez Apple ou... Enfin, voilà. Et d'un autre côté, il y a la complainte du déclassement. Tu en parles, hein, l'allongement de la durée des études, la dévalorisation des diplômes. Aujourd'hui, on trouve plus de boulot à Bac plus 5 automatiquement. Alors que justement, la détention de titres scolaires, c'était avant... C'était vraiment une des définitions.
Une garantie, oui.
C'était une garantie pour les classes moyennes.
Oui. Et effectivement, là, c'est un point que je mets un petit peu en avant dans mon article qui me paraît assez intéressant et qu'on n'aborde pas réellement quand on fait la théorie des classes moyennes. C'est qu'est-ce qu'elles font au juste ? Effectivement, les classes sociales, c'est pas des abstractions produites par le mode de production seulement. On peut les comprendre, on peut les produire comme des abstractions produites par le mode de production. Si on veut faire vraiment de la théorie, mais elles ont des stratégies sociales et elles veulent des choses, elles font des choses. Il y a des sujets qui agissent là-dedans et elles produisent de l'idéologie d'une manière déterminée. Et ce sur quoi j'insiste dans mon article, c'est le fait que ce qu'on sait tous, hein, ce qu'on peut penser vulgairement, les classes moyennes se voient toujours plus pauvres que ce qu'elles sont. Ça atteint des niveaux qui atteignent même celui de la statistique, puisque je cite dans mon article, enfin je mets ça en source, un article de l'Observatoire des inégalités, où c'est le directeur de l'Observatoire des inégalités qui critique le fait que soit choisi comme seuil par l'INSEE, je crois, un seuil de 60% au-dessus du revenu médian pour définir le seuil de pauvreté. Et il dit que ce seuil de pauvreté-là, ça représente 2400 euros pour une famille avec deux enfants, ce qui est loin et très loin de représenter les situations les plus dramatiques dans lesquelles sont les gens dans ce pays. Donc, de fait, dans la conception qu'on a de la pauvreté ou de la difficulté, etc., de plus en plus, on intègre des couches de population qui sont relativement favorisées, hein, faut pas rigoler, c'est deux SMIC, mais qui sont pas dans une situation pas si dramatique. Du coup, il y a des tas de stratégies sociales qui sont plus ou moins relayées par les pouvoirs publics. On a des stratégies sociales, par exemple, les stratégies sociales qui relèvent de la carte scolaire dans ce pays qu'on voit parfaitement bien. Où les personnes de la classe moyenne ont tendance à se regrouper de manière un petit peu obscure pour envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles où il y aurait, je sais pas, pas trop de gens de couleur, pas trop de... comme ça. Et donc, on est sur des ensembles de stratégies qui définissent aussi la pratique quotidienne d'une classe et qui définissent des axes politiques dans lesquels... qui se mettent à exister politiquement aussi, quoi.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que... Justement, tu cites dans ton article que les Pinsons Charlot ont beaucoup insisté sur la coupure, l'entre-soi et les privilèges de la bourgeoisie. Bon, tu dis que finalement, on pourrait dire un peu la même chose des classes moyennes salariées qui ont leur collège et leur lycée, qui sont dans les centres-villes et pas dans les banlieues. Bon, à Paris, c'est vraiment extrêmement manifeste, malgré tout, arrivent quand même à occuper les bonnes filières éducatives, même si elles ont été exclues, et c'est pour ça qu'il y a du ressentiment des très grosses filières, les grandes écoles et tout ça, mais il y a une bonne partie qui ont été exclues, mais quand même, elles arrivent quand même à garder les filières de l'université, les écoles de commerce et tout ça. Et du coup, tu critiques, enfin, tu dis que la division de la société pensée par les classes moyennes, c'est les ultra-riches et... le peuple. Et toi, tu dis, non, attention, parce que même à un point de vue matériel, il y a quand même une différence fondamentale entre ceux qui ont un diplôme, ceux qui en ont pas, ceux qui sont propriétaires et ceux qui sont locataires, ceux qui auront quelque chose et ceux qui n'auront rien. Donc là, je cite ton article. Du coup, est-ce que tu pourrais un peu préciser comment est-ce que toi, tu critiques justement cet aveuglement de la classe moyenne à cette division bien réelle?
Je le critique comme un dispositif politique qui, parce qu'il a la légitimité de la parole, puisque la plupart, tu le disais au début, il y a un monopole de la capacité à s'exprimer, par des gens qui ont des diplômes et qui du coup sont la plupart du temps issus, sauf exception romanesque, quoi, je veux dire, qui sont issus de la classe de la classe moyenne. Donc il y a un monopole politique qui constitue un type de discours, hein, avec cette bipartition entre eux, ben, voilà ce qu'ils appellent l'oligarchie, c'est-à-dire les très riches, voilà, des niveaux de revenus, enfin c'est plus du revenu à ce niveau-là, hein, c'est très très peu de gens qui seraient opposés à 99% à tout le monde, et qui, de fait, ce dispositif invisibilise en réalité ce qui est l'existence pratique, concrète, et donc du coup les intérêts immédiats des parties les plus pauvres de la société, qui sont effectivement le prolétariat, qui n'est plus aujourd'hui ce glorieux sujet politique que pouvait promouvoir il y a encore une trentaine d'années ou une quarantaine d'années un parti communiste pourvu d'un sujet historique et d'un programme, etc., lequel est pour le moment est terminé, quoi.
Donc c'est plus le prolétariat est plus un sujet politique, et c'est pour ça finalement qu'on prétend l'englober quand même malgré tout dans le peuple, mais il a disparu comme sujet politique.
Voilà, le prolétariat, je fais cette distinction dans mon texte, qui est une distinction un peu classique, hein, entre le prolétariat porteur d'un programme historique, un sujet historique, et la classe ouvrière, qui est cette masse de personnes qui sont assignées à la production, quoi. Aujourd'hui, il y a peut-être encore de la classe ouvrière, encore qu'on voit mal comment elle s'homogénéise, et si elle s'homogénéise, en réalité, c'est sous les catégories politiques de la classe moyenne. Et donc, elle se trouve propulsée dans un débat qui se joue dans des élections entre M. Mélenchon, entre Mme Le Pen et entre M. Macron, en réalité.
Donc, en fait, finalement, parce qu'on n'a pas parlé trop de Marine Le Pen, mais l'unité, quand tu dis que... Donc, elle disparaît comme sujet politique, mais à la limite, il y a des fractions de ce prolétariat qui vont parfois se retrouver, des fractions très précises, qui vont se retrouver aspirées quand même malgré tout dans le jeu politique des classes moyennes salariées. Donc, par exemple... on va dire la fraction de l'ancienne aristocratie ouvrière, déclassée, blanche, qui subit la concurrence. On a l'exemple de Talbot-Poissy dans les années 80, disons que c'est un peu... Donc, va aller du côté éventuellement de Marine Le Pen ou du côté de Mélenchon. Et après, il y a aussi... ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a aussi des ouvriers qui ont voté pour Sarkozy. Il y a des ouvriers qui ont voté pour Macron parce que ils se disent, c'est quelqu'un de dynamique, et donc comme il va tout dynamiser, malgré tout, en bout de chaîne, je vais aussi être dynamisé.
Oui, comme il y a beaucoup d'ouvriers qui ont voté pour Macron, qui avaient voté Mélenchon au premier tour, et qui votent pour Macron au deuxième tour, parce que on fait avec l'offre qu'on a, et avec la disponibilité idéologique qui est là, quoi, simplement.
Ce qui est intéressant justement dans la communisation, c'est que on pourrait avoir l'impression de dire c'est triste, le sujet politique du prolétariat est mort, il faudrait le faire revivre et tout ça, et votre discours c'est évidemment pas ça, parce que finalement on voit dans le fait que certaines fractions du prolétariat arrivent à s'intégrer malgré tout dans le jeu des classes moyennes, que le prolétariat est aussi évidemment, c'est à la fois une condition subie, mais en même temps, joue dans les catégories du capital, et donc il essaye malgré tout de tirer son épingle du jeu, soit en pariant sur un cheval qui va dynamiser toute l'économie, et du coup lui avec, soit en pariant sur un autre cheval qui va lui éliminer un peu de concurrence étrangère, soit en pariant sur un cheval qui va redistribuer un peu des miettes qui vont réussir à piquer aux surpuissants avec des impôts sur le revenu plus importants et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, dans tous ces discours politiques qui groupent donc les classes moyennes salariées et puis à chaque fois une petite fraction du prolétariat, il y a malgré tout une acceptation fondamentale des catégories de base du capitalisme. Il y a une défense du capitalisme, et qui est d'autant plus aisée à faire pour les classes moyennes, et ça on le verra peut-être plutôt dans la deuxième partie, que, évidemment, comme tu le dis bien, toute la critique sociale des classes moyennes se limite à une dénonciation de l'injustice et un appel à l'égalité. Au passage, c'est l'exploitation qui disparaît, et avec elle, ceux qui la subissent au premier chef. Ce discours de justice sociale est en réalité une arme dans la lutte de classe que mènent les catégories moyennes et supérieures menacées pour conserver leur statut, lequel dépend entièrement de la plus-value déjà produite sur le dos du prolétariat qui l'a produit. Donc là, on voit bien que les classes moyennes ont évidemment un intérêt matériel parce qu'elles bénéficient de la plus-value, on verra un petit peu plus loin, et elles sont peut-être encore plus que le prolétariat qui, malgré tout, aurait peut-être un peu plus d'intérêt quand même à sortir de la société capitaliste quand même, elle va avoir encore plus intérêt, disons, à le défendre. Et finalement, les classes moyennes, c'est ce que dit aussi Bruno Astarian dans, dans ses textes sur X-Alta communisation. Et un peu le... Bon là aujourd'hui il n'y en a pas trop besoin, mais un peu le dernier rempart du mode de production capitaliste en cas de problème.
Oui, oui, bien sûr, on peut toujours l'envisager comme ça. Après, je reviens un peu sur ce que tu disais auparavant, c'est que l'idéologie des classes moyennes, elle est également en prise avec l'idéologie qui est celle de tout le monde dans le salaire, de ce fameux salaire qui n'est non pas le prix du travail, mais le prix de la force de travail. Pour tout le monde, le salaire se présente de manière objective dans le capitalisme. Pour certains, on va dire plus que d'autres, mais la manière idéologique qu'à la classe moyenne de le formuler est une manière qui est voilà, singulièrement irénique et qui fait sens dans la disparition du programme ouvrier, c'est-à-dire de ce qu'il pouvait y avoir de conflictuel ou de contenu, on va dire, socialiste dans un précédent cycle de lutte. Mais il y a une résonance profonde entre l'idéologie que produit le capitalisme et la manière dont la classe moyenne la vit en réalité.
Et pour finir peut-être sur... le lien qui unit la politique et les classes moyennes salariées. Tu dis dans la dernière page de ton article, il n'y a pas aujourd'hui d'autre politique, car toute politique implique une intériorisation, même critique, des catégories du capital comme étant l'indépassable du capital, puisque le capital, désormais, c'est la société elle-même. Le prolétariat, dès lors qu'il se trouve embarqué en politique avec tous les autres segments de classe, finit toujours, dans ce cycle de lutte, par travailler contre lui-même, non pas parce que son seul intérêt serait la révolution, mais bien parce que la résolution des problèmes sociaux tels qu'ils sont posés par l'État dans le capital passe nécessairement par l'aggravation des conditions de vie des prolétaires. Et donc tu finis sur le fait que tout État est celui d'une bourgeoisie, et même un État ouvrier n'a jamais pu être autre chose qu'un État contre-maître. Et donc là, tu vois, on voit bien la différence de rapport à la politique qu'ont les classes moyennes salariées. Et le prolétariat, c'est que finalement, en fait, l'abstention massive, du coup, on la comprend tout à fait, parce que, effectivement, qu'est-ce qu'a le prolétariat comme intérêt à tirer, peut plus tirer son épingle du jeu, puisque le sens de l'histoire capitaliste ne va plus vers un aménagement social, comme durant la Trente Glorieuse, mais vers
une aggravation des conditions de vie qui se vérifient dans l'échec des syndicats en permanence pour... Les luttes syndicales qu'on voit en France depuis quelques années consistent à peu près toutes à négocier des bonnes conditions de licenciement et la plupart du temps à pas y arriver. Donc c'est pas très encourageant et ça donne pas envie aux gens ni de faire du syndicalisme ni de faire de la politique parce qu'aucun parti ne peut relayer ce genre de choses. Et naturellement, cette critique des stratégies de classe de la classe moyenne ne sont pas là pour être un regret du prolétariat sujet du socialisme. On a tiré le bilan que cette chose-là était révolue, terminée et qu'on n'allait pas pouvoir la... Il ne s'agit pas de reconstruire l'identité de classe, il ne s'agit pas de trucs comme ça, mais il s'agit d'entériner la situation telle qu'elle est et telle qu'elle est plutôt plutôt tragique, on va dire.
Et aussi du coup de l'analyser, c'est ça qui est important, c'est de tirer un trait sur l'identité ouvrière, reconstruire le prolétariat comme sujet d'une classe politique. Donc ça permet d'éclairer à la fois l'attitude du prolétariat aujourd'hui en politique, qui est une abstention massive, sauf pour les quelques fractions qui espèrent tirer leur épingle du jeu, en s'associant avec les classes moyennes salariées, qui elles ont encore quelque chose à perdre dans cette dynamique, et qui essayent soit de pousser la dynamique un peu historique du capitalisme mondialisé dans le sens de il faut... De toute façon, les économies mondiales sont en compétition, donc il faut restaurer la compétitivité, il faut en finir avec toutes les vieilleries comme le code du travail, il faut de la flexibilité, tout ça. Et les autres classes moyennes salariées qui participent dans le jeu politique pour des raisons inverses et avec des objectifs inverses, qui est de tirer, entre guillemets, d'essayer d'arrêter un peu le cheval et qu'il aille un peu moins vite pour, diminuer le déclassement, diminuer au moins la rapidité du déclassement.
Sachant que dans cette répartition, c'est toujours le côté du capital qui va gagner, puisque naturellement, il n'est pas non plus question de revenir sur une gestion étatique quelconque, et qu'en réalité, le mouvement général, c'est celui de l'austérité, c'est celui... Là, ce qu'on voit ce que propose le gouvernement Macron... et qui n'a rien de très original, puisque c'est ce qui se passe à l'échelle européenne depuis quand même un certain temps, c'est grosso modo, le programme, c'est de revenir aux conditions du rapport capital-travail, c'est-à-dire entre l'ouvrier et le patron, qui sont celles du 19e, sur les conditions de l'exploitation qui sont celles d'aujourd'hui, en fait, grosso modo. C'est-à-dire, c'est selon la belle expression de Marx, celui qui va apporter sa peau au marché et qui ne peut s'attendre qu'à une seule chose, qui soit, c'est d'être tanné. C'est-à-dire que voilà, le rapport immédiat, direct, même à la limite sans contrat de travail, sans droit du travail, entre quelqu'un qui a sa force de travail à vendre et quelqu'un qui est disposé à l'acheter. Donc c'est ce vers quoi on va. Ce à quoi s'opposent les classes moyennes dans ce en quoi elles ont affaire à la reproduction de la reproduction du rapport d'ensemble. Que ce soit les fonctionnaires ou que ce soit plus généralement ce qu'on appelle la classe de l'encadrement. Mais c'est ce programme-là, la gauche des classes moyennes, est quand même largement voué à l'échec.
Et peut-être pour finir cette partie, du coup, ce qu'on a compris, c'est que quand même une des différences fondamentales entre les classes moyennes salariées et le prolétariat, c'est que le prolétariat n'a plus rien à espérer, ou s'il a jamais eu quelque chose à espérer de la politique. Et comme tu le dis, l'autre, c'est celui qui n'a rien à faire, qui n'a rien à dire, et une révolution à faire, qui est absolument subalterne et se confond avec toutes les figures subalternes, et qui est voué à apparaître comme tel, toujours quelque chose de particulier, le noir, l'arabe, la femme, le délinquant, le chômeur, l'ouvrier, le pauvre. Il n'y a aucune positivité à en tirer, sauf pour les ventriloques qui parlent au nom des autres. Les luttes de ces catégories, d'autant plus âpres et difficiles qu'elles ne sont pas admises dans le champ politique, ne sont pour autant pas vouées à converger en un grand mouvement émancipateur unifié, avec ses leaders, ses porte-paroles et ses idéologues. Donc là, ce serait vraiment le retour de la politique, la constitution d'un nouveau sujet politique qui est fantasmé depuis les années 70, avec les nouveaux mouvements sociaux, la convergence des luttes et tout ça. Et je finis juste de ta citation. « Elles ne sont que le cours quotidien, c'est-à-dire la réalité effective, dans ce qu'elle est à la fois de trivial et de nécessaire, d'un mouvement qui est celui de la contradiction qui mènera, ou pas, à une révolution communiste. »
Ou pas. Ou pas, oui, bon, enfin, bon, ça c'est un peu une plaisanterie, hein, puisqu'on sait bien que la révolution arrivera à la fin.
D'accord.
On a d'une part pas de garantie, et d'autre part, ce que ça tend à dire, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, enfin nous, ou moi en tout cas, je ne veux pas parler pour les autres hein, du tout, le prolétariat tend à de plus en plus en fait, à s'identifier au cours même du capital. Voilà, une des caractéristiques fondamentales de la théorie de l'accommodation, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de particularité, il n'y a pas d'étrangeté du prolétariat, il n'y a pas de nature communiste du prolétariat qui en ferait une espèce de corps étranger au sein du capitalisme, mais qu'il n'est que le rapport, il n'est que la lutte de classe, quoi. Il n'est que la lutte de classe, il incarne la lutte de classe sous un pôle particulier, dans lequel il a une activité particulière, mais il se distingue en rien du cours de l'histoire du mode de production capitaliste.
C'est une catégorie de base du capitalisme.
C'est une catégorie de base du capitalisme, et ça n'est rien de... C'est une des caractéristiques de la théorie de la communisation. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu ardu à saisir, un petit peu théorique, mais en réalité, si on ne fait pas de politique et si on regarde juste les choses comme elles se passent, c'est ça en fait. C'est pas compliqué dans le sens où c'est ce qui se passe.
Et à l'inverse, pour finir avec Bruno Astarian, lui, il dit que, au contraire, dans l'hypothèse de cette révolution communiste, les classes moyennes salariées ne peuvent qu'avoir comme rôle, en dehors d'exceptions marginales, que soit de s'opposer frontalement à un mouvement insurrectionnel, soit de tenter, aux endroits où il n'est pas encore devenu insurrectionnel, de le prendre dans sa dynamique justement très politique, très réformiste, enfin, de parler entre guillemets au prolétariat en tant que catégorie de base du capitalisme, et de lui proposer qu'ensemble, on va faire avancer nos petites revendications et on va, mettons jusqu'à autogérer des usines comme Ali en Argentine. Et c'est pour ça aussi que dans le cadre d'une théorie de la communisation, une théorie de l'activité politique de la classe moyenne salariée, elle est importante parce que, évidemment, on parle toujours de l'affrontement entre le prolétariat et le capital, mais le capital, c'est pas grand monde, c'est pas beaucoup d'individus, c'est... Et en fait, c'est justement la classe moyenne salariée qui est au milieu, Et là, dans la deuxième partie, on va détailler un peu ces classes moyennes, parce qu'il y a la police, il y a l'armée, il y a les salariés du secteur public, il y a les salariés du secteur privé. Et donc là, on voit qu'il y a une certaine... enfin, il y a quand même, là, pour le coup, une masse beaucoup plus importante de gens qui, eux, vont avoir une place aussi dans ce processus révolutionnaire et qu'on ne peut pas juste oublier en pensant que, un peu en mode révolution française, que tout le monde va se retrouver emporté par le courant,
mais oui,
et que
oui,
ce sera merveilleux. Quoi.
Mais même pour la révolution française, c'était pas tout le monde, c'était déjà segmenté. Quoi. Et effectivement, alors là, on pense quand même, quand on connaît un petit peu l'histoire, irrésistiblement, au grand moment. De la trahison de la social-démocratie vis-à-vis du mouvement ouvrier, etc. Sauf que là, je pense qu'on est encore dans la situation actuelle, on est dans une situation où la classe moyenne risque fort d'incarner ce qui va simplement s'opposer au chaos. Là, je pense à la Syrie sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, où j'ai écrit quelques trucs dans mon blog. Le fait de passer d'une forme dans l'histoire syrienne, d'une forme politique, qui était celle des printemps arabes, à une forme de conflictualité généralisée, comme on l'a vu après, ça n'a pas débouché sur une révolution communiste, mais plutôt une espèce d'affrontement extrêmement violent, enfin meurtrier, entre un État aux abois et, là pour le coup, des fractions plus ou moins djihadistes, ou en tout cas militarisées de part et d'autre. Et donc, bon, c'est une situation extrêmement catastrophique, mais qui est celle où effectivement il n'y a pas d'unité de la classe ouvrière, pas de situation léniniste comme ça, et qui est voilà la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. On peut le regretter, hein, on pourrait préférer revenir en 1917 ou au moment de l'assassinat de Rosa Luxembourg aussi, encore que ce soit triste, mais voilà, la classe moyenne risque fort d'incarner ce qui va véritablement s'opposer au chaos, sachant qu'il est fort probable que une situation révolutionnaire réelle risque d'apparaître immédiatement sous la forme du chaos, de la guerre civile et de choses extrêmement désagréables pour tout le monde d'ailleurs de ce type-là. Quoi.
Oui, c'est important effectivement de montrer que justement la dynamique, ce qui est aussi une des choses qui est intéressante dans la communication, c'est que si on lit un peu vite, on pourra avoir l'impression que c'est une reprise de la théologie de l'histoire où la révolution communiste triomphera inévitablement parce qu'on est dans le progrès de l'histoire, mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Il y a un mouvement de l'histoire, mais effectivement, le développement de la contradiction de classe et tout ça peut aussi se présenter sous la forme de guerre civile et de choses pas forcément très rigolotes. Quoi.
Oui, on a ce terme qui est de moins en moins repris, mais celle de la communisation immédiate. Quand on dit qu'elle est immédiate, ça veut naturellement pas dire que c'est tout de suite, ça veut dire qu'il y a pas de phase de transition. Par contre, ça peut prendre du temps. Il y a un copain qui disait il y a quelques années, la révolution a déjà commencé, elle a commencé en 2011 avec les printemps arabes. Il n'est peut-être pas tort, peut-être qu'elle a déjà commencé et peut-être que juste ça prend le temps que le chaos s'agrandisse et s'élargisse et qu'on est déjà dans un processus révolutionnaire sans le savoir. En tout cas, on n'est pas sorti de la crise de 2008 manifestement, il y a des reprises timides mais qui sont des reprises économiques au sein desquelles on voit les conditions de vie de masse de prolétaires quand même pas mal s'aggraver. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, il y a une paupérisation de la force de travail qui est générale, quoi, assez évidente, en Angleterre, partout. Donc on peut estimer qu'on est dans un début de situation révolutionnaire, mais en tout cas on est toujours dans une crise du capitalisme qui pour autant n'offre pas de sortie radieuse, lumineuse, de lendemain qui chante, d'unification de la classe, etc., mais toujours plus de division. Toujours plus de séparation, toujours plus de querelles internes, en fait, à la classe, non seulement du prolétariat, mais à toutes les classes.
Et que c'est une segmentation énorme. Ouais.
Voilà, une segmentation et qui tend à se généraliser, à s'aggraver. Les fossés entre la classe moyenne et les classes paupérisées, les plus paupérisées, tendent à se creuser de plus en plus. Et voilà, et c'est un petit peu le mouvement réel qui est quand même pas très agréable, hein. Enfin, plutôt envisagé comme une catastrophe que comme un grand mouvement de libération. Je pense qu'on est quand même largement sorti de l'idéologie de la fête révolutionnaire 68arde, quoi, à part quelques gauchistes encore qui persistent à le voir comme ça. Mais bon, ne serait-ce qu'on a vu ce qui s'est passé pendant la loi travail. On s'est peut-être bien marré, mais on s'est quand même pris pas mal de coups sévères dans la gueule, ne serait-ce qu'en France. On a eu des niveaux de répression que moi, personnellement, pour avoir fait pas mal de manifs depuis pas mal d'années, j'avais encore jamais vu, et qui n'était pas que ludique, quoi. Qui était vraiment, qui commençait à devenir quand même un petit peu méchant, quoi. On n'est pas en Syrie, mais ça devient rude, quoi.
Et là, pour le coup, c'était une partie de l'encadrement dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission qui s'est chargée de cette basse besogne. Donc là, on a parlé largement de l'aspect politique des classes moyennes salariées, au moins en France, mais on a aussi élargi largement. Et puis, on est allé jusqu'à parler de la révolution, de la communisation et des places des différentes classes, de ce ménage à trois dont parle Bruno Astarian. Et donc, on va faire une pause musicale avant de parler, disons, un peu plus froidement et un peu plus sociologiquement, entre guillemets, et puis théoriquement, de c'est quoi la classe moyenne, c'est quoi son rôle dans le mode de production capitaliste, c'est quoi ses différentes fractions, c'est quoi ses fonctions, pourquoi est-ce qu'elle est contre-révolutionnaire, pourquoi est-ce qu'elle a ce niveau de revenu? Voilà, toutes des questions qu'on se poserait et auxquelles on essaiera de répondre.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient.